Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Shitlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. Dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. En 2014, sort sur nos écrans Ex Machina, film de SF existentiel qui raconte la création d'une androïde Ava, interprétée par Alicia Vikander, par un scientifique Maboul, joué par Oscar Isaac, qui va bouleverser l'humanité, un film qui a eu les louanges de la presse et des spectateurs et qui a créé une attente monumentale pour son prochain film. C'est alors que Annihilation débarque sur Netflix quelques années plus tard chez nous, amputée d'une sortie en salle à cause d'un propos trop complexe, enfin jugé trop complexe, et un film pas aimable pour le grand public qui, selon la Paramount, allait assurer un crash au box-office. Un film mettant en scène pourtant un casting assez costaud, avec Natalie Portman qui part dans une zone inconnue et avec plein de promesses horrifiques qui devaient comprendre pourquoi son mari Oscar Isaac est devenu complètement zinzin. Un pitch sur le papier assez sexy mais dont le résultat final a complètement divisé les adorateurs et ceux qui ont détesté en trouvant le film prétentieux et totalement chiant. À l'occasion de la sortie de son nouveau film dans nos salles, Civil War, c'est le moment pour nous de rétablir la vérité sur ce long métrage. Je suis Luc Lolinac et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Annihilation de Alex Garland mérite la shitlist, je suis accompagné de mes deux bacheliers en littérature préférés, Vesper de la team shitlist avec nous. Bonsoir Vesper.
Le pire c'est que c'est vrai, mais il est fort, salut.
Je vous écoute quand vous parlez.
Tu retiens, ouais, je sais pas.
Oui, bah oui, bah ça le problème c'est que je retiens. Par contre, ça peut être ça qui peut être un peu emmerdant, effectivement. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim.
Salut tout le monde.
Il veut dire qu'on a d'assez gros cerveaux pour comprendre Alex Garland.
Mais vous savez réfléchir et c'est ça qui me fait plaisir.
Rigole, mais dans le groupe, initialement, donc Annihilation à Pop, personne vraiment à la base s'est porté volontaire pour s'inscrire sur ce film. Et étrangement, lui qui l'a quand même balancé, en tout cas pour moi, du genre. On va dire qu'à Cosor, ce serait pas un peu ta cam des trucs où il faut parler pour rien dire. Ah, tu vois, et je suis là.
Merci d'être là et merci Vesper aussi d'avoir pris la balle. Je sais que c'est un film pas simple, mais en tout cas vous êtes là et ça me fait extrêmement plaisir. Ce qui vous fait déjà, j'ai envie de vous donner le titre des deux meilleurs membres de l'année. Voilà.
C'est vrai.
Juste pour ça. Juste pour ça.
Bah on est déjà les plus sympas.
Oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Vous êtes les moins méchants.
On est les moins aigres déjà aussi, tu vois. C'est pas mal.
Non, en vrai, il y a nous. Il y a Manu, il y a toi, en bas quand même, et ouais. Y a Marvin tout en bas. Enfin, si on doit.
Ah ouais prendre, Ah, vous en êtes là, ok.
Mais comme les vrais habits, okay. C'est fascinant. Tu vois, je veux dire, c'est ça la force de Marvin.
Ok. Ouais,
bah. Vraiment, fasciné. C'est flippant, tu peux mourir, c'est dangereux, mais t'y vas. Tu vois, c'est ça la force de Marvin.
Mais t'y vas, tu plonges dedans.
Vous sentez le syndrome de Stockholm?
Ouais, bah complètement là. Pour essayer de réfléchir vraiment efficacement, on va quand même parler de la carrière d'Alex Garland. C'est quand même un mec qui a commencé romancier en fait. Il a commencé romancier en 96, il publie le roman La Plage, qui sera adapté dans les années 2000 par Danny Boyle, et dont il va écrire le script justement du film. Et c'est là qu'il va commencer en fait à avoir un travail en binôme justement avec Danny Boyle, puisqu'ils vont enchaîner derrière 28 jours plus tard, qui va sortir en 2002, donc toujours avec Boyle à la réalisation et Garland au scénario. Puis rebelote en 2007 avec le film Sunshine, également, toujours sur le même duo. Après, pour le coup, Alex Garland va commencer à s'émanciper et il va faire plusieurs scénarios, notamment celui du film. Alors, c'est une comédie dramatique qui s'appelle Auprès de moi, toujours, de Mark Romanek en 2010, avec Keira Knightley, Andrew Garfield et Carey Mulligan. Alors, officiellement, c'est ce que je disais, son premier film, c'est Ex Machina en 2014, mais son vrai premier film. Alors, il n'a pas été crédité comme réal, il était au scénario et en fait, il a été appelé en secours à la réal parce que c'était le remake de Judge Dredd, qui était simplement, s'appelait Dredd. C'est qu'en fait, la petite histoire, c'est que Pete Davis, qui s'occupait de l'adaptation, en fait, s'est fait virer parce qu'il avait livré une première version du film qui n'était pas dans les attentes des producteurs de Lionsgate. Et donc, pour éviter de se casser le cul à chercher un nouveau réalisateur et dépenser de la thune supplémentaire, enfin beaucoup de thunes pour récupérer un réal, ils ont du coup récupéré Alex Garland pour dire bah voilà, tu tu peux nous aider s'il te plaît pour retourner faire les phases de reshoot et de réécriture pour pouvoir en fait finir le film. Et c'est lui en fait qui a fait toute cette partie de travail. Donc c'est quasiment, je crois qu'on est à peu près sur les valeurs, sur une échelle de valeurs, 70% du film, ce qui est quand même pas mal, hein. Mais comme un peu comme Rogue One qu'on a déjà parlé en fait, qui était réalisé par Tony Gilroy. Mais en fait, c'est toujours il a été crédité sur le nom de Gareth Edwards.
Rogue One devant moi, Luc.
C'est un exemple. J'utilise ça comme un exemple de grand
c'est
public.
Tout.
Voilà.
C'est tout.
Voilà, tout soon. Je sais que ça fait encore pleurer. En fait, il a ensuite, en 2018, donc il a Annihilation. Et en 2020, il sort la série. Il écrit, il est showrun, la série Devs, qui était diffusée sur FX, qui est avec Nick Offerman et Sonoya Mizuno. Alors, je sais pas si tu l'as vu, toi, Karim, cette série.
Non, je vois ce que c'est.
Devs.
J'ai pas vu.
Non. Vesper non plus.
Non plus.
Non plus. Hein. Moi, je sais que.
Alors
moi,
donc j'aurais pu faire un effort. Mais...
Qui est un espèce de gourou, hein, qui est, c'est un petit peu sa secte en fait.
Quelle série c'est, mais non, je l'ai pas. Je l'ai pas vu.
Alors moi, je l'ai pas vu non plus, mais j'ai ma meuf Marie-Clémentine qui l'a vu et qui a dit que c'est une des meilleures séries qu'elle n'a jamais vues. Voilà. Donc et que c'est un truc. En fait, c'est un trip très métaphysique. Ce qu'on retrouve aussi dans Annihilation et dans quasiment tous ses films, quoi. Et en 2022, il sort sa plus grande bouse, qui est Men. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi clivage. On n'est pas tous d'accord.
Alors, faut qu'on le fasse parce que je l'ai toujours pas vu. En attendant qu'on le fasse. Donc
alors, j'ai voulu le mettre, mais je me suis dit finalement tout soon. Il faut attendre quelques années encore pour montrer le ridicule total du film. Mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est une merde. Je sais que pour d'autres personnes, effectivement, mais c'est pareil.
Non, c'est clivant, pas une merde. Hein.
C'est clivant. Voilà. Donc là, il va sortir Civil War qui sort en mi-avril. Et il va, alors après, lui, il a décidé que c'était sa dernière réalisation en tant que réalisateur, mais pas trop, parce qu'il va être co-réalisateur pour un autre film de guerre qui va arriver dans un an et demi, qui s'appelle Warfare. Puis, il va retourner au métier de scénariste, vraiment full scénariste, parce qu'il en a vraiment plein le cul, en fait, de réaliser. C'est vraiment pas parce que, c'est parce qu'il a des problèmes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il en a marre. En fait, ça le passionne plus, je pense qu'il a fait le tour. Et il s'est dit, voilà, pour l'instant, j'en ai vraiment marre. Mais là, il va retrouver Danny Boyle, après quasiment 20 ans, où ils n'ont pas travaillé ensemble, pour justement la fameuse suite de 28 semaines plus tard, qui s'appellera 28 ans plus tard, qui sera avec... Alors normalement, là, parce que là, on est encore en stade de pré-prod, mais techniquement, c'est Jodie Comer qui devrait jouer avec Cillian Murphy. C'est à peu près ce qu'on a actuellement comme rumeur par rapport à la production du film. Alors, fun fact, Garland est un joueur de jeux vidéo. Ça se voit un petit peu dans Annihilation. Si on prend les dates, si on capte un petit peu, ça se voit quand même. En fait, ça se tombe bien parce qu'en fait, il a bossé pour le jeu vidéo. Il a participé à deux jeux vidéo des années 2010. Alors, c'est des jeux qui n'ont pas forcément super bien marché. Y a une, c'est une grosse licence qu'on connaît tous, une licence japonaise. Et l'autre, c'est une nouvelle licence qui avait tenté d'être faite. Et c'est pour un studio anglais. Est-ce que vous savez à peu près sur quoi il a travaillé?
Oui, il y a Devil May Cry et Enslaved.
Voilà.
J'avais dit
Enslaved. C'est ça,
Enslaved. C'est Théorie. Donc.
Ouais, c'est ça, qui est un studio britannique. Et c'est vrai que DMC, donc, était le reboot de la saga de Capcom. Voilà. Et qui était un peu un sorte de remake, ouais, de réécriture de Devil May Cry, mais version GOT. Gros mec. Branleur de 20 ans à Londres. En fait, un petit peu ça, quoi, dans l'idée.
Ça, en parlant de clivage, pour le coup,
pareil.
Le look dedans, t'avais avec clivé. Ouais.
Mais je suis son cosplay un petit peu. Regardez un petit peu, si vous voyez un peu ma mèche. J'ai un peu ce cosplay là. Ouais, je suis pas mal, hein. Pas mal là-dessus. Mais non, effectivement, ouais, ça a été un peu clivant, mais. Ouais. Enslaved et DMC, moi j'avais plutôt bien apprécié. Hein. Je trouvais que c'était plutôt des bons jeux en plus. Hein. Ma question pour vous, c'est quelle est votre relation avec le cinéma ou le travail d'Alex Garland? Et je vais commencer avec Vesper.
Côté, on va dire, réalisateur à proprement parler, ça va, j'ai tout vu, c'était pas très difficile.
Ça va, la carrière était pas compliquée. Ouais.
J'ai platiné Alex Garland, réal. Pour le coup, Ex Machina, c'est celui que j'ai vu en dernier, que j'avais toujours pas vu et que, en vrai, bah, j'avais bien aimé. Alors après, je suis une Oscar à Isaac Zouz, donc. Je suis un peu gâtée avec lui. Ex Machina, en vrai, j'avais bien aimé, franchement. Alors pareil, ça n'avait pas révolutionné mon existence, mais j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et j'ai beaucoup, enfin, et Men, ça a été une expérience. On va
ouais,
dire
c'est
que
particulier.
Il y a des gens que je ne citerai pas, mais qui s'appellent peut-être Daniel Andreev. Ils m'ont dit, Go, c'est vraiment un film pour toi. Tu vas kiffer.
Ah ouais.
Parce que toi, les films.
À labelliser Vesper.
Voilà. Mais en mode pour dire c'est un peu féministe machin.
Ok.
Et en vrai, je savais rien du film quand j'y suis allée, seulement c'est le nouveau film d'Alex Garland, je me suis dit on va y aller. Je pense que c'est une des séances de cinéma les plus traumatisantes de mon existence.
À ce point-là ?
Ouais, mais parce que je n'oublions pas que je suis une chouchotte et que je ne supporte pas les films d'horreur. Donc en fait, déjà
je peux comprendre.
Voilà, et en fait, déjà bon, il y a une scène finale qui est on va dire entre guillemets de l'horreur pure où j'ai vraiment passé la séance, j'étais comme ça. J'étais entre mes doigts.
Attends, et
je faisais un truc que je ne fais d'habitude.
Pourtant,
jamais.
C'est la partie la plus drôle. Hein,
Je regardais l'heure discrètement, tellement ça m'était physiquement pénible.
Ah, d'accord.
Et surtout, donc le côté horreur, bon, à la rigueur, voilà, mais c'était surtout le côté. Bah, en fait, c'est proche de la réalité. Donc, enfin, d'être une femme.
Ah, peut-être
seule,
pas le fait que.
Ouais. Non, mais.
C'est peut-être pas le monstre.
Tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ça touchait une corde sensible chez moi qui est.
Oui.
Bah, voilà, t'es une femme seule et t'as peur de te faire agresser, en fait. Enfin, tu peux potentiellement plus te faire agresser, quoi. Donc, en fait, ça a tellement titillé. Une peur tellement viscérale chez moi que en fait même le début entre guillemets il se passe pas grand chose d'un point de vue horreur, j'étais déjà trauma en fait, donc je suis même pas sûre d'avoir envie de revoir ce film. Je l'ai trouvé super mais je pense que je le reverrai jamais parce que ça m'a vraiment traumatisé quoi. Donc voilà. Et sinon, en parlant de semi-réal, en vrai, le banger dans tout cela, c'est Dread de loin, mais ça c'est...
Oui.
pour d'autres raisons. Mais voilà. Donc en vrai, je partais en vrai assez, de manière assez positive, et au final, c'était Annihilation, mon premier Alex Garland proprement parlé, quoi.
Tu l'avais vu à la sortie, donc j'imagine quoi.
Ouais, je l'ai vu dès qu'il est sorti, exactement. Donc, comme j'étais assez curieuse, mais j'étais plus curieuse du fait que c'était un film de SF un peu chelou avec des mutations et Nathalie Portman. C'était plus ça.
Ouais, mais c'était marketé comme ça, si tu veux, hein, dans l'idée. Hein, dans manière, hein.
C'est plus ça qui m'avait été vendu, et puis forcément, mais bon, je garde mon avis pour plus tard, mais effectivement, quand c'est sorti, ça avait quand même fait du bruit en disant « Ah, ça sort sur Netflix, ça sort pas au cinéma parce que c'est trop compliqué pour vous, petit. » Alors, c'était pas les propos de Garland, je crois. C'était
Non, c'était le studio, ouais.
Ouais, voilà. Donc, bon, à la rigueur, ça fera moins boulard, mais... gros boulard, mais bon. Voilà.
Karim, de ton côté.
Garland, c'est un mec que j'avais ignoré parce que j'avais lu La Plage, et oui, bah, je l'ai en titre, donc j'avais lu après avoir vu La Plage de Danny Boyle. J'avais kiffé en fait son travail sans m'en rendre compte, parce que j'avais vu Les 28, j'avais vu tout ça, c'était cool. En fait, clairement, c'est la campagne Netflix hein, qui m'a rappelé que Alex Garland existait, parce que quand le film est sorti, il était partout. Les motivations étaient initialement les mêmes que Vesper, en mode ou de la SF, hein, ou c'est mutagène, machin. Et en vrai, vu que je suis toujours très long à la détente, hein, j'avais pris du retard sur le visionnage, machin, j'étais en plein Death Stranding, donc j'étais dans la vibe, du genre en mode la nature, chelou, ça me va. Tu vois, j'étais bien dans le truc, tu vois, j'étais Kojimé là.
Ouais, oui.
Après, j'ai vu Ex Machina, j'ai pas vu le reste, je me réserve Dread. Pas de Red Men, parce que vous m'en avez beaucoup trop parlé et que je pense qu'un jour on en parlera. Je pense, dans tous les cas, vu ce que vous avez dit, il va susciter des réactions chez moi. Lesquelles? Je ne sais pas.
Mais ah oui,
qui va soit m'énerver.
C'est là-dessus où il est fort. Hein.
Voilà. Donc voilà, et pour Ex Machina que j'avais vu, j'avais trouvé ça cool. J'avoue qu'on me l'avait un peu trop survendu. Vraiment, comme genre le renouveau de la SF, un thriller psychologique, t'as vu machin et tout, c'est un huis clos, machin. C'est cool, hein, y a pas à chier, c'est beau, y a pas à chier. Il y a déjà des faiblesses en fait, tu vois, je veux dire, c'est un film quand même qui je trouve assez imparfait sur certains points, très bien sur d'autres points, donc ça en fait pas, j'ai du mal à considérer ça comme des grosses pièces maîtresses, même si c'était novateur. Donc quand je regarde Annihilation à la base, hein, j'ai un petit souvenir en mode, ah ce mec là il a quand même des idées, mais j'ai pas trop de souvenirs de cinéaste à ce moment là, et après, le film j'en parlerai plus tard, j'en ai pensé.
Ça marche, et bah écoutez, on va se lancer dans le film et on va mettre directement la bande-annonce.
Pouvez-vous me décrire sa forme ?
Non.
Commencez par le début.
Tu crois que je fais quoi quand tu t'en vas ? Tu crois que je reste dans le jardin, planté là, les yeux rivés au ciel ? Pourquoi t'es pas à côté ?
Je dois partir un jour plus tôt. Votre mari est ici.
Laissez-moi le voir.
Il est gravement malade.
Vous devez me dire où il était, ce qu'il faisait.
C'est lui qui a décidé d'y entrer. C'est une chose qu'ils appellent le miroitement. On a envoyé des drones, des groupes de gens, mais rien ne revient jamais.
Un homme a réussi.
Vous êtes biologiste, vous avez été militaire.
Si je savais ce qui lui est arrivé, je pourrais le sauver.
La frontière s'élargit, le phénomène s'étend. On parle de villes entières, d'états.
Vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur ? Moi aussi. C'est splendide.
Regardez ça.
On dirait qu'elles sont en constante mutation.
Rien d'intéressant là-dedans ?
Non.
Les requins ont ce genre de dents.
C'est pas possible. On peut pas croiser deux espèces différentes. C'est quoi ?
Les soldats de la dernière expédition.
Ils sont devenus fous, ou bien quelque chose les a tués.
C'est passé à travers le grillage.
À travers le grillage ?
Faut rentrer à la base.
Je ne rentrerai pas.
On campe ici cette nuit.
C'est en train de tout détruire.
Ça ne détruit pas. Ça crée quelque chose de nouveau.
Annihilation. Ouais, putain, c'est pareil, ça, c'est un truc.
Mec, fais-le en anglais, tu verras. Annihilation, ça passe tout seul. Plus facile que annihilation.
Annihilation. Annihilation.
T'as une variété entre deux phonèmes. Dans la prononciation. Annihilation. Annihilation.
C'est compliqué. Annihilation, sorti en 2018 sur Netflix et en distribution limitée en salle aux États-Unis et en Chine, produit par Skydance et DNA Films avec un budget de 55 millions de dollars, adapté du roman du même nom de Jeff Vandermeer, écrit et réalisé par Alex Garland et aidé à la photo par son collaborateur attitré Rob Hardy. Annihilation, nous raconte l'histoire de Lena, une biologiste et ancienne soldat interprétée par Natalie Portman, qui se joint à une mission pour découvrir ce qui est arrivé à son mari, Kane. Vous voyez déjà la subtilité du truc. Joué par Oscar Isaac dans la zone X, une zone où un phénomène sinistre et mystérieux s'étend de plus en plus sur la côte américaine suite à un crash d'une météorite. Et on va commencer avec Vesper et je vais aller directement, bien sûr, dans le tas en disant, est-ce que ça t'a fait réfléchir? Parce que c'est ça aussi pour moi, on parle de société, tout ça, mais là, est-ce que ça t'a fait réfléchir sur la condition humaine?
C'est pas un film de société, là, ça va.
Non, c'est pas un film de société, non.
Quand même.
C'est au-delà de ça.
C'est au-dessus.
C'est au-dessus, c'est au-dessus. Non, ça parle de l'homme.
On est
un grand H.
Sur le fait que Alex Garland n'est jamais subtil dans ce qu'il fait.
Ah non.
Mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté ça fait réfléchir. Donc
ouais.
ça va. Et bah en vrai, donc du coup la première fois que j'ai vu ce film, donc c'était à la sortie, j'ai détesté. Et
bam.
J'y allais à reculons quand tu avais proposé effectivement le podcast. Et là pour l'avoir revu, je l'ai quand même pour l'avoir revu pour le coup, je l'ai réévalué à la hausse. Alors c'est pas non plus ouf, mais je me suis quand même beaucoup plus attardé sur ses qualités. Et maintenant, je le trouve quand même pas mal. Qu'avant, c'était, enfin, je me rappelais juste un truc bizarre avec un ours. Et et c'était ultra.
Mais c'est vrai que l'ours, tu as raison, l'ours ça a marqué.
Ah oui.
Franchement, l'ours a marqué.
Je me rappelais même plus du film. C'est vraiment. Bon, enfin, en le revoyant, évidemment, ça m'est revenu, mais je me rappelais vraiment de. Enfin, tu m'aurais dit il y a une semaine, c'est quoi l'histoire d'Annihilation? J'aurais été là. Il y a un moment, il y a un ours, et ça me rappelait que c'était un peu cringe. Et c'est tout. Et ouais, en fait, pour le coup, déjà, je vais commencer par le positif. J'aime beaucoup l'univers, en fait. Enfin, ça fait. Alors, le voir maintenant, c'est un peu bizarre parce que t'as l'impression de voir un film Midjourney qui n'était pas. Forcément, on en était loin en 2018, 2019.
Oui, oui.
Mais là, c'est vrai que le miroir, miroitement, le shimmering, là, comme ils disent. On dirait vraiment les trucs que tu génères sur Midjourney, quand on a
le fameux clip de Pink Floyd tout pourri là.
Oui, voilà. Ou tu sais même il y a 2 ans quand ça venait de sortir, 1 an, 2 ans, je sais, j'ai plus qu'une notion du temps. Quand ça venait de sortir et que les gens sortaient genre des montages pétés sur Twitter, ça me faisait penser à ça parce qu'il y avait un espèce de truc un peu bizarre avec des artefacts un peu chelous. Donc en voyant ça, j'étais là, oh, putain, c'est Midjourney. Mais sinon, en fait, en soi, la DA, je la trouve vraiment cool. C'était vraiment ça qui m'avait séduit quand le film était sorti, parce que bah, la post-apo, j'aime bien. Enfin, il y a peu de gens qui aiment pas, j'ai l'impression, quand même, c'est un truc...
Non, vraiment, bah, c'est un genre qui nous fascine, forcément. Ouais.
J'aime le post-apo, j'aime les fleurs. On fait des...
Et des hommes puissants.
Et des hommes puissants. Bah, en fait, j'aime bien. Moi, je suis team Poison Ivy en plus, donc ça, ce genre de...
Ah oui, là, je peux comprendre.
Tu prends un peu l'idée de... c'est le post-apo dans la nature à The Last of Us, sauf qu'au lieu d'avoir des champignons dégueux, c'est des fleurs. Donc, cool. Ça m'a aussi fait un peu penser, mais évidemment de manière totalement rétroactive. Hein. Là, il y a quelque temps, il y avait un jeu court Silent Hill qui est sorti, qui s'appelle The Short Message, et en fait, le monstre principal, c'est ça, c'est une espèce de créature, bon bah la Silent Hill, sauf que là c'est avec des fleurs de cerisier. Et du coup ça m'a un peu fait penser à ça, donc quand on pensait un peu des inspirations, donc forcément pas une inspiration de Garland, mais de se dire qu'on reste quand même un peu dans cette atmosphère là-dessus, donc ça en vrai, ça m'a fait plaisir de le revoir et de me dire, non quand même ça c'est cool, je trouve que ça marche quand même plutôt bien. Après Nathalie Portman en militaire, est-ce qu'on y croit? Pas trop.
Biologiste, ouais. Oui.
Biologiste, oui.
Militaire, bon.
Ex-militaire, je suis là. Chérie, bon, pas trop, mais bon, d'accord. Donc c'est vrai que ça m'a quand même paru un peu moins long que la dernière fois, même si en vrai, je pense que tu peux retirer 20 minutes pour rendre ça un peu plus.
Dynamique.
Bah, ouais. Voilà, un peu plus sympa. Mais sinon, en soi, c'est vrai que j'ai bien... En fait, j'aime bien ce genre de truc où ça forme un peu une boucle, en fait, où tu te demandes un peu, où tu le moment où tu recommences un peu à reconnecter avec les événements et tout. Donc, en soi, c'est vrai que j'étais reparti sur c'est vraiment nul. Alors, en fait, non, c'est vraiment... C'est pas mal. Et puis, bon, il y a Tessa Thompson, donc... C'est toujours cool. Pourquoi toi, tu peux pas te plaindre quand il y a Tessa Thompson dans ton film. La scène de l'ours est toujours aussi cool. Mine de rien, en la revoyant comme ça, je trouve qu'elle a vraiment un...
Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ceux qui ont oublié, c'est l'ours qui imite en plus les cris des gens, enfin les voilà, voix des gens.
En fait, il y a un ours...
Pour les piéger, oui.
Voilà, une des nanas de l'équipage plutôt dans le film. Et en fait, on comprend donc quand ils arrivent, parce que c'est vrai qu'on a, enfin voilà, au niveau du pitch en fait, donc ils se dirigent vers cette espèce de miroitement pour comprendre ce qui s'est passé. Donc une des personnes de l'équipage se fait attaquer par un ours, et en fait l'ours réapparaît plus tard dans le film, et on voit donc l'idée du film, c'est qu'il y a des mutations un peu partout, donc pour une image effectivement pas très subtile. Donc Nathalie Portman est biologiste, c'est aussi pour ça qu'elle est là.
La division des cellules.
Ça parle la division des cellules, tout ça. Et ça parle évidemment de d'autodestruction à la fois mentale, à la fois les maladies et ce genre de trucs. Tout ça pour dire que en fait quand l'ours réapparaît, il y a une espèce déjà de mutation qui opère. Donc je trouve que le design de l'ours est déjà assez stylé en vrai. Et en fait comme il a sa précédente victime a muté un peu avec l'ours, et ce qui fait que quand en fait il attaque, enfin quand il ouvre la gueule, en fait on entend sa dernière victime qui crie à l'aide. Et en fait, ça marche encore super bien. Enfin, je trouve
c'est incroyable.
Je trouve que c'est vraiment la meilleure scène du film, en vrai. Et ça remonte sans ça. Peut-être que j'aurais trouvé le film moins bien. mais cette scène est vraiment efficace. Et elle marche toujours aussi bien. Donc, c'est assez, c'est assez cool. En vrai, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment un film que je recommande. Drait en priorité à des gens qui aiment le post-apo. Si après, bon, t'en as marre du désert et que t'as vu
Waterworld
plein de fois, ouais. peut-être que tu peux voir Annihilation, mais ouais, en vrai ça va. Voilà, c'était vraiment la conclusion de.
Ouais, ouais.
En vrai ça va.
Ça passe.
Ça passe. J'aime bien l'idée du cette fois de faire un espèce de crew. De scientifiques féminines qui ont chacun leur domaine un peu de d'expertise, en se disant à chaque fois on a fait une équipe différente pour varier parce que
parce que personne s'en sort à chaque fois.
Ah ouais, non, mais c'est ça. Et je trouve que la paranoïa est quand même assez bien retranscrite. Donc non, en vrai, à chaque fois je pensais venir ici en me disant ah non, c'était vraiment de la merde, et en fait Voilà, en fait, plus c'est plus le cas pour la moine maintenant, en tout cas.
Tu as évolué, tu as été miroité.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui change? Est-ce que c'est le... voilà. Mais bon. Donc non, en fait, non. Coup assez cool. Et puis bon, forcément. Après, peut-être que je l'aurais préféré si j'avais vu en salle aussi déjà à l'époque. Je pense qu'il y a.
Possible.
Ça
ouais, bah, le problème c'est qu'on n'a pas eu cette chance là parce que ça a été complètement puté quoi.
C'est bête à dire hein, mais là on élargit à des trucs qui sont beaucoup plus larges que Annihilation. C'est que les films qui sont 100% streaming en fait je sais que comme beaucoup de gens de ma génération, on va dire ça comme ça, j'ai une déperdition d'attention si je suis pas à 100% dedans et que je dois un peu m'empêcher de regarder mon téléphone quand j'ai des petits moments. Chose que je ne fais évidemment pas au cinéma car j'ai une race. Et c'est vrai que du coup, bah, des fois, ça, c'est peut-être ça aussi qui fait la diff quand t'es vraiment capté à 100% dans une ou pas. Donc ça peut...
Parce qu'il a marché, tu vois, avec Men au cinéma, alors que peut-être t'aurais pas eu le même effet, tu vois, par exemple, peut-être chez toi, quoi.
Peut-être que Men aussi, comme ça me mettait mal à l'aise, j'aurais passé la grande partie du film à justement essayer d'éviter un peu l'écran et peut-être du coup...
La confrontation, ouais. Voilà,
je me serais moins pris dans la gueule, quoi. Donc voilà, en gros, c'était pas passionnant, mais à mon avis...
Mais c'était passionnant, arrêtez de dire ça, arrêtez, t'as été miroité, c'est tout ce qu'on sait maintenant.
Je suis miroité, ouais. J'aurais dû mettre des
paillettes. Voilà, ça. Ouais, voilà, exactement. Alors après, j'avais dit que c'était une adaptation, alors c'est pas totalement, parce que le film n'était pas... l'écriture, c'était une trilogie littéraire, mais le premier tome n'était pas encore totalement finalisé au moment où ils ont acheté les droits à la Paramount pour développer en film, ce qui arrive souvent. Du coup, en fait, Alex Garland a chopé le pitch et il l'a interprété comme lui vous le souhaitez, en fait, vraiment, dans le sens où il a dit « bah, moi, je le vois le truc comme ça ». Et l'auteur était ok, hein. Lui il a pris l'échec, hein. Il s'est pas cassé non plus, mais en gros il a dit oui c'était oui voilà, enfin c'est le bon réalisateur pour ça, c'est le bon scénariste pour ça, voilà, fais ton truc. Et finalement ouais c'est une bonne, enfin je reviendrai plus tard sur mon avis, mais c'est plutôt ok. Après bon il y a d'autres problèmes, mais c'est autre chose. Je parlais de la sortie complexe, alors effectivement je l'avais bien un peu en intro. Il y a eu une petite bataille en fait, parce qu'il y avait deux producteurs dans la bataille. Il y a Scott Rudin et David Allison. David Allison qui est de la Paramount, qui avait fait donc, une fois que le film était terminé, qui a été, en fait, c'est un truc commun à Hollywood, c'est de faire des tests avec du public cible pour voir si le film fonctionne, pour voir si le film a une bonne réception, s'il a une possibilité commerciale, s'il peut se vendre en fait. Et il y a eu des très très mauvais retours en fait au moment où ils ont fait les tests. Et donc, de son côté, en fait, David Allison... Non, bah, je pense, ouais, le baquet aux États-Unis, ça va être aussi différent.
Ça n'existe pas.
Ils ne connaissent pas les livres. Voilà, c'est de la science-fiction.
Absolu.
Et David Allison, ouais, non, mais David Allison, du coup, il dit alors, si vous voulez une sortie en salle, va falloir me rendre le film plus sympa, plus compréhensible, donc il va falloir faire des reshoots. Scott Rudin, lui, qui est un autre producteur qui était plus de Skydance, dit va te faire foutre, on le fera pas. Il était plutôt du côté du réel, il dit non, on fera pas ça. David Allison, qui a le droit d'exploitation, qui a le dernier mot, il dit ok, niquez-vous, on vend les droits à un truc sécurisé. Donc, c'est-à-dire en ce moment, à cette période-là, c'était les services de streaming. On va dire on va le vendre à un service de streaming, on va nous récupérer, voilà, on va être rentable. On fait une sortie limitée quand même parce qu'on a des salles, Paramount a des salles aux États-Unis, donc ils font une sortie limitée là-dessus. Et démerdez-vous, on reste là-dessus, quoi. Et finalement, voilà, c'est pour ça qu'en France, on n'a pas eu le film, et dans d'autres pays, surtout en Europe, qu'on n'a pas eu, le film au cinéma, et on l'a dû le regarder tous sur Netflix. Voilà, ce qui peut un peu flinguer un peu l'expérience, je trouve, parce que vraiment visuellement... Je me suis fait la remarque, pour 55 millions de dollars,
ah.
Wow, c'est propre quand même. Franchement, c'est ultra clean. Alors, c'est les FX. Les FX, je trouve que ça tape bien vraiment pour l'espèce d'effet miroitement effectivement dans le ciel et tous les effets VFX qui pullulent un petit peu dans le décor. Après, il y a eu quand même des travaux de décor. Il y a un excellent chef... Comment il s'appelait, je vais retrouver le nom. Ah, c'était Mark Digby qui s'occupait du coup de tout ce qui va être concerné le set design. Le set design et tout ce qui va être SFX en fait, tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être en dur. Je trouve que là, ils se sortent très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à gérer avec 55 millions une espèce de truc hybride qui fonctionne extrêmement bien et qui rend tout crédible et très beau en fait. À part peut-être sur la dernière partie vers le phare où je trouve que ça, bon là ça commence à être un peu compliqué, 55 millions de dollars, bon là je, bon, c'est, moi, c'est voilà, c'est complexe vers avec le tous phare. Les arbres et tout dans la plage.
Ah oui, moi ouais, c'est ouais, ouais. Ce que j'aurais à reprocher sans spoiler, c'est plus le design d'une créature qu'on voit à la fin que de la manière dont ça a été exécuté, tu vois.
Ah,
bah ça tranche, je pense.
C'est pas que ce soit une histoire de pognon, voilà.
Ça tranche. Mmh. Ça tranche, voilà. Mais c'est un choix, je pense que là il y a voilà, pas une question de pognon, c'est plus un choix. Mais je serais plus dans le truc justement de l'avant-créature où ça fait un peu cheapos.
Ouais.
Ah, ouais.
là, je ouais.
Ouais, mais bon, faut.
Voilà, là, mettre, tu sens qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de personnes.
Bah, faut lui mettre 6 ans dans les pattes, voilà. Aussi, tu vois, en pur CGI aussi, tu vois.
Oui, l'œil qui s'est affiné aussi. Bien sûr. Alors, petit fun fact, ça va concerner justement l'ours. Alors, le superviseur des effets visuels, c'est Andrew Whithurst, qui a aussi en fait travaillé sur Ex Machina, mais qui a travaillé aussi sur un autre film d'ours. Tout en CGI, un film anglais. Il a travaillé sur quoi, à ton avis, Vesper? Tu souris, mais je pense que tu le sais.
De quoi, Midsommar?
Un petit... Non, un ours en CGI.
Ah, bah Paddington.
Il a bossé sur Paddington. Et du coup, lui, il retrouve donc à animer un ours, et pour le coup, ils l'ont filé à cet ours-là, en fait, dans le film d'Annihilation, ils l'ont filé le nom de Homerton, en fait.
T'imagines, t'es stylé. Monsieur ours.
Imagine sur le
site. Ah ouais, le mec, ouais. Ouais, c'est
ouf.
Vous avez un ours à animer, y a pas de problème, je suis là.
En chef. Non, mais c'est trop bien.
Superviseur ours en chef.
Imagine, il
superviseur.
C'est les films d'horreur Winnie l'ourson après là, les trucs horribles.
Ah ouais, non, là je pense qu'il y a personne là, qui travaille là-dessus. Non. Là c'est un vieux costume tout dégueulasse.
Ah non mais. Incroyable.
Non mais après. Après il a quand même. Alors donc il a été vendu sur Netflix, mais il a quand même réussi à faire 43 millions. De recettes en salle aux États-Unis et en Chine. Ce qui est quand même pas mal hein, pour une sortie limitée, pour un budget à 55 millions. Et après, bon, pour rappel quand même, c'est vrai que la réception du film, en soi, quand il est arrivé, le film s'est fait défoncer. Enfin, il y a le côté presse qui était plutôt OK, ça va, ou d'autres qui disaient que c'était un peu prétentieux. Mais pour le coup, effectivement, le public en général trouvait le film long, chiant, trop compliqué, prétentieux. Enfin bref, il s'est tapé toutes les critiques. Alors, moi, de mon côté, j'ai revu le film à la hausse.
Ah.
Parce que c'est pareil, j'ai complètement détesté au début. Enfin, la première fois que je l'avais vu, je trouvais ça vraiment... Après, c'est que c'est Alex Garland, c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé, mais je trouve qu'il est mal aimable, il est prétentieux. Il est vraiment, tu sais, c'est vraiment... Tous ces films, c'est un peu vraiment le truc du... Ah, vous êtes tous des cons, vous comprenez rien de toute façon. Et c'est un peu ça, moi, je ressens à chaque film, tu vois, que je regarde. Je dis, ouais, bon, j'aime bien ces films. Je voudrais bien tous les aimer, mais j'arrive pas des fois, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc qui m'avait un peu flingué le premier visionnage. Puis, je pense que j'étais plus jeune aussi, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. J'avais peut-être pas le recul et les éléments ou les clés nécessaires pour comprendre tout ce qu'il voulait dire non plus. Parce qu'en fait, en gros, là, en le revoyant, j'ai vu plein de messages. Mais c'est pareil. En fait, là, le problème du film, c'est qu'il a tellement de trucs qu'il veut dire ou tellement il laisse un peu trop à l'interprétation que du coup, tu sais pas de quoi il parle. Donc, tu sais pas où il veut aller, en fait. Tu sais pas où il veut aller. Parce que, on en a d'ailleurs parlé un petit peu en off, mais c'est avec Karim. Mais c'est vrai qu'on se dit, on a la fin, ça va être un. On sait pas. Enfin, on pense qu'après Annihilation 2, par exemple, ce sera un film de Body Snatchers. Est-ce que c'est un film qui parle. Enfin, je sais pas, on sait pas trop. Tu te dis, est-ce que ça, c'est vraiment. Ça utilise beaucoup les thèmes de la biblique, tu sais, avec Cain et tout. Enfin, tu dis, putain, quand tu vois qu'Oscar Isaac s'appelle Cain, tu fais, voilà, mais.
Ça s'écrit différemment, il y a eu un effort, Luc.
Oui, il y a un effort. C'est vrai qu'effectivement, il faut décoder, il faut déchiffrer un peu.
Ça, c'est pour les gens qui ont fait bac L.
Bah ouais, mais j'ai pas fait bac L. J'ai vu le truc arriver sur ma gueule, tu vois. Voilà, non, mais ça, tu sais, c'est vraiment le truc du mec qui sort, qui a un peu le messager de la destruction et tout. Enfin, tu fais, ouais, bon, c'est bon, ok, j'ai compris. Puis t'as le péché originel et tout, le fait que Natalie Portman brûle le phare à la fin, qu'elle le emporte avec elle le fruit défendu, le péché originel, enfin. Oh, tu fais putain, mais c'est bon quoi. Et à la fin, tu vois que c'est Adam et Ève 2.0 en fait, finalement, le truc. Donc tu comprends, alors t'as ça. Mais tu te dis, est-ce que c'est pas aussi une métaphore par rapport à la parentalité, le fait que voilà, c'est aussi deux êtres qui fusionnent et qui vont créer des nouveaux êtres qui vont garder les traumas de leurs parents. Parce que c'est pareil, le fait qu'ils soient tous soldats ou ex-soldats, c'est pareil, je pense que c'est aussi une métaphore de la guerre et des deux horreurs que tu peux voir aussi dans la guerre, parce que t'as à un moment donné, effectivement, il y a une exposition où tu vois les caméras, où tu vois qu'ils sont en train de faire des trucs dégueulasses, les soldats entre eux. C'est pareil, tu peux dire, c'est une métaphore aussi des horreurs de la guerre, des crimes de guerre, des trucs comme ça. T'as plein de trucs comme ça, mais en fait, t'as plein de pistes, Mais tu sais pas où il veut aller, en fait. Et c'est ça qui est un peu chiant, en fait. Parce que c'est frustrant. Tu sais pas ce qu'il veut dire, en fait. Ouais. T'as tellement de trucs.
Et le cancer.
Et
T'as oublié le cancer.
Ouais, la leucémie. Les hommes puissants, putain. Non, mais voilà, mais c'est les hommes puissants. Bon, c'est pareil, tu sais très bien. Bon, c'est par rapport à la nature, retourner à la nature qui reprend ses droits, tout ça. Est-ce qu'il faudrait pas évoluer, justement, étant hybride? Est-ce que ce serait pas la solution, justement, pour éviter la destruction parce qu'on est tous trop cons? Enfin, voilà, t'as plein de trucs, en fait. T'as plein de pistes, tu réfléchis à plein de choses, mais en fait, t'as aucune piste qui fonctionne, ou t'as aucune piste où finalement, quand tu vas à la fin, tu fais, bah, en fait, non, ça marche pas. Donc, t'es là. Ouais, c'est chiant. Et c'est vraiment un film que je voudrais aimer, et ouais, je le trouve un peu prétentieux, je pense que c'est un bon mot quand même pour le mettre un petit peu, dans le sens où il se veut peut-être un peu plus subtil ou plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Mais c'est dommage, parce que j'aime bien la DA, j'aime bien le casting aussi, on en reviendra plus tard, parce que je te laisserai Karim, parce que je sais que t'as un casting aussi où t'apprécies beaucoup quelques actrices. Je trouvais ça un peu dommage. Après, c'est vrai que la direction d'acteur, je trouve que c'est des bonnes actrices, sauf qu'on leur donne des rôles fonctions à jouer. Mais tu parlais de Tessa Thompson.
On a du mal à
Tessa Thompson, c'est
vrai, hein, enfin.
Ouais, c'est dommage, parce que t'as même il y a une espèce d'antagoniste qui va se jouer, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont explorer. Je trouve que le shift aussi de l'antagoniste, finalement, il est un peu trop abrupt. Mais c'est vrai que tu vois, genre Tessa Thompson, elle joue quoi? Elle joue une... Bah, t'as compris en 2-3 mouvements que c'est l'intello de la bande, parce qu'elle a fait un doctorat, quoi. Et qu'en fait, elle est pas bien dans sa peau.
Elle a des lunettes.
Elle a des lunettes, oui, elle a des lunettes. T'as Nathalie...
Voilà,
des problèmes existentiels.
Elle a des lunettes, elle a été introduite par sa pote qui dit elle est très intelligente.
Ouais.
Voilà, donc.
C'est Sheldon Cooper.
Oui, parce que le crew est intégré dans le film, genre un espèce de bière. On boit une bière tous ensemble, quoi.
Ouais. Bah oui, ce qui est un peu dommage là-dessus, c'est ce qui fait que le film, c'est ce qui le sépare d'un bon, vraiment bon film, on va dire, enfin, d'un bon film, vraiment bon film. C'est ça, c'est que. Je trouve qu'on s'attache pas, en fait. Enfin, moi, je me suis pas du tout attachée à l'équipage. Donc, en fait, au fur et à mesure, quand t'as des pertes, t'es là, bon. Moi, ça m'embête, c'est quand ça touche Tessa Thompson, mais parce que c'est Tessa Thompson, mais pas parce que c'est son personnage, en vrai, je m'en fous, quoi. Et c'est vrai que.
Ah, c'était émouvant quand elle finissait en fleurs. C'est... Oh là là, j'ai chialé.
Mais c'est vrai que le crew à proprement parler, il y en a une qui se bouffe par un ours, on dit oui, bon bah, je sais, c'était laquelle des.
Oui, et en plus, c'est celle en gros qui dit ouais, ma fille a une leucémie, tout
c'est ça.
C'est
l'ancienne
pote. Ouais, mais du coup, ça a quoi à voir avec le film aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, putain.
Ça me fait... Ah oui bah, ça, à la rigueur, à la rigueur, je peux au moins sauver ce détail-là où tu vois qu'elles ont chacune, on t'explique qu'elles ont chacune une raison, en fait, d'accepter une mission un peu suicide. Et que elle, oui. Du coup, elle s'est jamais remise de la mort de sa fille.
De la mort de sa petite fille. Ouais.
Enfin, tu vois, donc.
Oui, c'est vrai. Mauvaise foi. Pardon. Excusez-moi, c'est
la
mauvaise foi qui parle.
Voilà. À la rigueur. Et puis Tessa Thompson, tu comprends qu'elle a, qu'elle était suicidaire. Enfin. Bon.
Et parce qu'elle a des entailles sur le bras, qu'elle essaye de le cacher, mais qu'elle ne cache plus à un moment donné, et qu'elle se met en communion avec la nature.
Voilà.
Ça, c'est beau.
C'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage.
Ah, c'est beau.
Comme le film est long déjà. Il y aurait eu moyen, en fait, de passer plus de temps avec ces personnages-là pour te sentir un peu plus impliqué par l'équipe. Et puis, en fait, un peu moins, quoi. Donc voilà, désolé, Karim, tu allais
un truc. Mais oui, justement, Karim, notre autre baccalauréat littérature, homme buisson, peut-être aussi.
Future réincarnation, homme buisson de cannabis, évidemment, autosuffisance.
Homme séquoia.
Sûr, évidemment. Annihilation, ouais, cas compliqué, en vrai, sans transition. Ouais, film qui m'avait laissé une sensation étrange la première fois, dans le sens que c'est un film que, quand j'y ai repensé là, exactement comme vous, je savais plus trop... Si j'avais aimé, pas aimé, tu vois, je veux dire, il m'avait laissé un sentiment trouble, tu vois, tu sais, mais je pensais un peu sur le négatif, mais négatif curieux. Revisionnage hier, et ouais, cas compliqué, mais plus on en parle, plus je pense que j'ai résolu mon énigme dans ma tête, mais c'est un film sur lequel j'aurais dû accrocher, vraiment. Alors, c'est un film, je veux dire, quand même, de base, j'ai globalement aimé, ça reste quand même sur le plus, mais il y a beaucoup de mais, c'est ça qui fait chier, tu vois, c'est une liste de potentiel, tu vois, c'est Sangohan, enfant, super potentiel, Sangohan, après, c'est de la merde, voilà. Pareil.
Ouais, la métaphore Dragon Ball, je l'attendais pas celle-là, putain.
Désolé. Et en vrai, techniquement, il a tous les ingrédients que j'aime. On est sur de la SF qui se veut pré-apo, futur post-apo, ce que tu veux. On est sur quelque chose qui se veut un peu méta. On est, je vous l'ai dit en plus en intro, je suis en pleine vibe de ça. Je suis en pleine Death Stranding parce que j'ai fait le film un peu en retard. Je suis en recherche de ça. Et le film, il te donne des ingrédients de ça. Et La première fois que j'avais vu le film, en fait, hein, je pense que je m'étais embrouillé justement avec toutes ces pistes qui avaient été envoyées et j'avais pas réussi à me faire une idée. Là, sur le coup, vu que je savais dans quoi je m'engageais, eh ben, j'ai essayé de me laisser prendre, en fait, justement, par tout ce que j'aime dans ce film-là. Donc, c'est vraiment... En fait, ce film-là, le problème, c'est que je me suis fait un autre film dans ma tête. J'y ai vu ce que je voulais voir. mais vraiment, en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu le film, au début, je me suis dit, ok, Annihilation, je me souviens plus trop pourquoi. Puis quand je revois le film, je me dis, en fait, ouais, il y a peut-être un délire, tu vois. Moi, je le prends genre en mode une métaphore de la vie. On t'introduit que la vie, le cycle de la vie, quelque chose qui n'était pas initialement lié au cycle.
Métaphore aussi, ouais. On rappelle dans le chat, c'est vrai, on en parle, la dépression aussi. Ouais. C'est vrai que c'est, oui, c'est une métaphore un peu de la dépression.
C'est ça, mais de toute façon, de base, ouais, le film part sur moi, donc en mode, en fait, l'autodestruction s'est créée pour la continuité, machin et tout. Donc pour moi, c'était un peu la ligne directrice du film. Et je me suis dit, tiens, c'est cool d'y mettre pour une fois une vie extraterrestre, tu vois, tu sais, qui va modifier la vie, tu vois. C'est pas forcément, tu vois, qui est là, pas en mode invasion. En mode body snatchers ou quoi que ce soit, tu vois, je voyais vraiment ce truc dans la métaphore de la vie est un accident. Si notre truc qui pouvait générer la vie pourrait créer notre accident, est-ce que ça modifierait pas la vie? Est-ce que ça donnerait pas ce truc, justement, tu vois, qui est à la fois troublant mais fascinant? Parce que la grande force du film, c'est de montrer des trucs qui sont hybrides, qui sont pas possibles, mais c'est très beau. L'apport végétal, mais même sur le bestiaire, hein, on parle de l'ours, mais l'alligator albinos croisé requin apparemment, oui, est stylé. Il y a vraiment une espèce de biche, je sais pas, ultra, oui, fine, lévrier peut-être. Voilà, toutes synchrones à deux, elles sont, ouais, magnifiques. Alors je trouve pas que ça soit un excellent non plus metteur en scène, mais de temps en temps, Alex Garland sait faire des trucs, il sait exploiter justement son décor, parce qu'il y a du dur aussi, tu vois. En plus, c'est vrai que cette idée opaline tout le temps, moi ça marche chez moi, tu fais cette espèce d'idée bulle de savon et tout, ça a un côté un peu onirique. Tout ça aurait dû me plaire, tu vois, t'sais. Et puis, en plus, là, je parle de ce que j'ai aimé. Le film, alors ça, j'ai pas aimé, parce que le mec, genre, est britannique, il fait son Kubrick, il chapitre son film, mais sans trop, voilà. Bref, dernier tiers.
Oui, c'est très 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ouais, c'est là que je trouve ça un peu prétentieux, je dirais plus tard. Mais, par exemple, le dernier tiers du film, The Lighthouse, le tiers où il n'y a quasiment pas de dialogue, je le trouve vraiment très bien. Moi, personnellement, c'est un moment, je veux dire, si je l'aurais même pris en court-métrage, ça... J'aurais pu kiffer.
Très onirique, ouais.
Je te jure, en fait, tu vois, tu sais, on est dans un délire, je vais dire des gros mots, tu vois, mais on est un peu dans du Jodorowsky, dans ce que j'aime, tu vois, tu sais, c'est quelque chose, c'est ultra méta. Non, mais on te... Tu vois, c'est pour moi, c'est, on te parle pas, on te montre, tu dois comprendre, tu vois, je veux dire, c'est quelque chose, voilà. Et tout ça, c'est ce qui aurait dû vraiment m'accrocher. Mais il y a tout ce que vous avez dit, en fait, il y a toutes ces pistes, en fait, qui sont balancées partout, parce que évidemment, tu sens que le film veut faire du symbolisme, donc il va titiller tout. Tes points de symbolisme, tous tes points d'aller, enfin, de connexion que tu vas faire, les métaphores que tu vas faire, ainsi de suite. Et le truc, bah, c'est plus on en parle, j'en ai parlé une bonne partie de la journée avec lui, qu'on a reparlé maintenant et tout, et en fait, le film d'un coup, il devient un peu film d'escroc, dans le sens que le mec, il veut faire son film méta, tu vois, tu sais, mais il veut être sûr de toucher tout le public, donc il va toucher à peu près tous les trucs méta qui vont peut-être te parler à toi. Le traumatisme, le PTSD de la guerre, le traumatisme de l'adultère, ceux qui aiment le fantastique, ceux qui vont forcément vouloir trouver un thème biblique dessus, ceux qui vont vouloir dire ouais mais ça en fait c'est vraiment la reproduction des profanateurs de sépulture machin et tout, mais non. Et en fait au début je me disais, je pense que c'est ça qui m'a vraiment embrouillé en fait, parce qu'il y a plein de moments dans le film ça me faisait décrocher en mode attends je suis là, je suis pas là, ainsi de suite. Et donc bah, ça te pollue vachement. Au bout d'un moment quand tu vois le film une deuxième fois, même si ça réévalue le film parce qu'on se rend compte quand même de certaines qualités intrinsèques du film. Pareil, la musique. Je reviens vraiment sur le segment du phare.
Ah oui.
Alors moi, le côté créature abouti, parce qu'effectivement, il y a deux stades de la créature, parce qu'il y a une créature, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Et moi, c'est quelque chose qui marche. En plus, à chaque fois que je vois ça, je relance Rez. Si vous n'avez jamais fait Rez, le jeu que t'es initialement sur PS2.
C'est le même personnage, tu disais. Ouais,
qui est un shoot'em up rythmique, musical, dans un univers, genre t'es à l'intérieur des programmes et c'est le truc de stoner complètement. On est vraiment là-dedans. Par exemple,
ah ouais,
créature qui avance, qui communique avec le son, avec la musique, je sais pas, c'est, je vous dis côté stoner, mais chez moi ça marche. Mais vu qu'en plus t'es un peu pollué, et même là, tu vois, sur le coup, j'avais réussi à me dépolluer un peu, le film se termine en faisant un choix. Pour moi, en fait, clairement, je veux dire, la fin est pas si ouverte que ça. Je veux dire, c'est, il y a un moment, on a bien clairement appuyé que il y avait des mutations, mais il y avait aussi des copies. Hein, tu le vois de toute façon à 4 minutes du film quand Karizaki revient. Tu comprends clairement à la fin, avec le délire des yeux, désolé, qu'il va se passer un truc, tu vois. Et ça m'a gavé. Parce que ça vient suite à un premier point qui m'a vraiment gavé. Déjà, je supporte pas quand on trouve un moyen de sortir le titre du film dans le film. Comme ça. Et il y a le plus gros point positif du film pour moi, qui est Jennifer Jason Leigh, qui est une actrice que j'adore, qui est une actrice que j'ai principalement connue, parce que j'ai beaucoup trop vu XDNZ dans ma vie. C'est une femme, je veux la rencontrer. Gang, ouais. Je veux dire, je suis convaincu qu'elle doit générer chez toi des sentiments, des émotions que tu ne connaissais pas. Elle a à la fois une froideur, elle est indescriptible. Et je trouve qu'en plus, dans le rôle qu'ils lui ont mis, c'est top. Je veux dire, c'est, ça en fait un personnage qui est très ambivalent. Tu peux pas,
très froid.
Tu peux pas dire si c'est vraiment un antagoniste. Tu sais pas, tu peux pas dire jusqu'où c'est la folie qui la pousse ou l'envie, tu vois. Elle, pareil, je crois qu'elle est malade. Elle a un truc aussi.
Ouais, elle a envie de se flinguer, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, elle a un cancer.
Un cancer. Elle, elle a vraiment un cancer.
Un cancer. Voilà.
Donc, c'est... En fait, ouais, il y a un moment, il y a ce personnage-là, qui peut-être le personnage de la troupe qui va jusqu'au bout avec Nathalie Portman, qui va finir, en gros, tu vois, en fait, que, plus ou moins la créature ou le reliquat de la créature va sortir d'elle et vraiment, la créature va clairement dire ça va être une annihilation. Et là, le film, il m'a gavé là, en fait, déjà dedans, parce qu'il y avait ça, genre, ça m'énerve, genre, ça crie « Annihilation !» Nique ta mère, putain, je veux dire, t'as l'impression d'avoir le titre qui saute aux yeux. Bref, et secondo, ça veut dire que tu prends un parti pris, ça veut dire que clairement, en fait, malgré tout ce que t'as pensé, ça veut quand même te dire qu'une forme de vie extraterrestre est venue là et qu'à terme, elle veut décimer l'humanité, on va faire du post-apo. Et ça m'a fait chier, en fait, parce que j'avais 1h50 avant de film où je m'étais laissé la place d'eux, je m'étais dit « Oh, c'est bien, tu kiffes, et tout, il y a... » Même les trucs qui me gênent, les personnages fonctionnent, machin et tout, et c'est pas grave, tu vois. Je m'étais fait un délire sur la panspermie de ouf, mec, tu vois. Et puis le mec, il te fait non.
Ah ouais.
Et c'est, je pense, d'être un truc de britannique, hein. C'est comme Ridley Scott qui fait Descartes, c'est un réplicant, niquez vos mères, 25 ans plus tard, tu vois. Et, tu vois, ça, et ça m'énerve parce que il te c'est un peu la technique de la sucette. Et en vrai, donc le film, je le garderai quand même étant un bon film. Mais plus j'y réfléchis, et quand je vois vos avis, les avis que j'ai pris aujourd'hui, ouais, en fait, il y a un peu ce côté film d'escroc. Genre. Le mec, ça a l'air d'être aussi un peu un marketeur quelque part, tu vois, tu sais, et il a vraiment spray tout ce qui pouvait nous, tout ce qui pouvait nous attraper, tu vois. Mais d'un autre côté, est-ce que je vais vraiment critiquer parce que ça a un peu marché, voilà. Je vais rejoindre un avis de Vesper aussi, enfin, sur votre avis tout à l'heure. Je pense que le film, je l'aurais vu en salle, j'aurais été beaucoup plus permissif, parce que je pense que, pareil, on n'a pas beaucoup parlé de la musique du film, mais t'as un moment vraiment de Last of Us, enfin, t'as plein de moments de Last of Us où en mode, c'est des ruines.
Oui, parce que c'est de la guitare acoustique.
Ouais, bah, ça devient un trope repris, je m'en fous, ça marche. Nique sa mère, tu vois, tu sais, ça marche bien.
Oui, oui, oui.
Tu vois, tu sais, ça marque bien, les temps de pause, parce que le film, pour moi, c'est pas un vrai film d'horreur, c'est un film
qui peut moment contemplatif, un petit
ouais,
peu.
Ouais. Puis ils ont raison, en vrai, ils se sont fait chier, les trucs sont stylés, tu vois. Donc voilà.
Oui, ils se sont fait chier, ouais, bien sûr.
Donc je disais, Annihilation, ouais, cas compliqué, parce que j'aurais dû vraiment aimer, tu vois, il y avait vraiment des bonnes pistes ensuite, mais pollué, je pense, par peut-être l'envie de trop bien faire, de vouloir choper tout le monde, machin et tout. Même si, pour moi, ça reste, comme disait Vesper, c'est pas un film que je vais incommoder d'aller voir à des gens, mais si quelqu'un me dit, t'as vu, qu'est-ce que tu fais, je te dirais, va voir, mec, au moins pour te faire un avis. Tu vois, c'est parce que
ouais,
crée un truc, clairement. Quand même, tu vois, qui je pense est marketeux aussi, c'est la sortie de ciné, ça. Là, c'est le film, tu vas passer, tu vois, tout ce qu'on a dit, on peut y passer 4 heures, en fait, à dire, ouais, mais ça parle de ça, non, mais ça parle de ça, mais t'as vu ça, ça. Tu vois, il y a tout le délire avec Ouroboros aussi, qui est sur l'un des personnages, qui va, en fait, tu vas voir au milieu du film qu'il est, qui s'est inscrit sur Nathalie Portman, tu fais, mais en fait, les êtres ont fusionné, machin, putain. Voilà. Donc, mine de rien, ça reste quand même la force de ce film-là, tu vois, tu sais, qui peut, alors, mine de rien, pas grand monde s'y intéresse, là, on s'y intéressait un peu par force, mais quand tu t'y réintéresses, peut créer, je te laisse, petit moment où, tu vois, on va faire un podcast à trois et on va durer le time sans trop de soucis, sans creuser, sans galérer, sans combler.
Ouais, tu peux balancer tout. Bah oui, oui.
Donc voilà. Donc,
bien sûr,
pas
bien
si
sûr,
mal quand même, Annihilation, peut-être pas.
Ouais,
en tant qu'objet filmique, pas si mal. Voilà,
tu vois. Je vais rebondir sur deux trucs que tu as dit. Il y en a une où je suis 100% d'accord et une où je suis moins d'accord. par rapport au côté, quand tu parlais de la créature, enfin, quand la créature arrive et que tu dis oui, ça. Tu comprends qu'elle va décimer la planète. Moi, je trouve qu'au contraire, ce qui est réussi dans le film, c'est que c'est comment dire, assez clair quand le personnage de Nathalie Portman le dit à la fin, qu'en fait, on ne sait pas si la créature est...
hostile ou pas.
Espèce d'alien, machin, quoi, voilà. Si c'est agressif ou pas. Et qu'elle-même dit... Benedict Wong lui-même lui dit, mais en fait, elle vous a attaqué. Il dit non, elle m'a pas attaqué, c'était du pur mimétisme. Et du coup, j'ai décidé de tout cramer, quoi. Et en fait, je trouve ça.
On me copie pas, moi. On me copie pas, moi. Je suis un être unique, quoi.
Assez drôle, de se dire là, c'est vraiment. Parce que souvent, tu vois ça dans des films où tu dis bon, on cherche pas à savoir si la créature est pacifiste ou incompris, tu la tues, et puis en fait, c'est même le principe du film, et c'est rigolo. Là, de se dire que c'est quelqu'un qui est quand même une scientifique, qui est quelqu'un de voilà de
mais une ex-militaire,
intelligent, voilà, mais une ex-militaire, une ex-militaire comme on dit.
Moi, les grenages, je connais. Oh.
Donc c'est vrai que ce côté de rappeler, alors encore une fois avec la subtilité d'Alex Garland, mais de rappeler que en fait, elle a vraiment tout cramé, alors qu'en fait, on on sait pas, enfin que vraiment elle n'a pas été attaquée par cette créature et que c'était totalement gratuit.
Alors c'est une référence, ouais. Bah c'est pour retomber sur sa référence biblique.
Oui, bien sûr.
Alors, en gros,
oui, mais en,
ouais, là, non, mais je...
en attendant, je trouve ça cool de, enfin de se dire qu'en fait, en vrai, elle a pas, enfin pas elle a pas réfléchi, mais de pointer le fait que c'était gratuit.
Que ce soit elle la méchante.
Voilà.
C'est elle en fait la méchante.
Ça c'était le point là. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi sur l'espèce de fin qui se veut ambigu, j'ai fait des air quotes, et qui évidemment ne l'est pas du tout, qui est aussi ambigu que la fin de Inception, il suffit que t'aies juste
ouais.
Un film et tu comprends.
Oui, exactement.
Ouais, mais première fois pour les deux films, moi je me suis fait baiser. C'est Inception, oui, c'est pareil, j'ai rien compris. Hein.
Non mais Inception, si t'es fatigué et que t'as un peu décroché, oui,
okay,
voilà, ouais. Mais sinon quand tu le... Enfin, tu...
Ça dépend, c'est ta saison.
Oui, non mais même... Non, mais
je comprends
même,
pas, quoi.
Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'Inception, c'était
un... Moi j'ai pas fait elle. Hein.
Le dé... C'était un peu le délire où tout le monde était là. Oh là là, mais du coup, la toupie, est-ce qu'elle tourne ou elle tourne pas? Je sais pas. Là, si, en fait, il a dit, il n'y a pas de suspense. Et là, oui, de finir là-dessus en se disant, oh là là, est-ce que c'est la créature ou c'est la vraie personne? Et qu'après, il y a juste.
Oui, bah non, finalement, on s'en fout.
Bah oui, du coup, ta réponse, en fait, il n'y a pas de.
Voilà.
Y a pas un truc un peu subtil. J'aurais bien voulu qu'à la rigueur. On sache pour lui, mais qu'on sache pas pour elle.
Ouais, c'est genre, et,
voilà,
et tu l'es
suspense,
là, ouais. Ça s'arrête là, tu vois.
Ouais, c'est ça, vraiment juste ça.
Non, elle donne la grenade à Lena, et là, plan suivant, elle revient et ouais. On sait pas, enfin, tu vois.
Oui,
voilà.
Non, mais c'est ça, mais ça, j'aurais trouvé ça quand même un peu plus.
Je suis d'accord.
Un peu plus sympa, qu'au moins tu dises, ah merde, quand même, mais voilà, cette fin là, c'est vrai que. C'est dommage parce que, comme disait Karim, effectivement, j'aime beaucoup le phare. Je trouve ça assez cool de la manière dont ça se passe. En plus, puis le petit espèce de terrier de lapin à la Alice au Pays des Merveilles. Je suis sûr que il y a des rêves toujours à la con comme ça. Il y a un truc Alice au Pays des Merveilles.
Ouais, c'est aussi sur la renaissance et la naissance parce que le portail dont elle rentre, c'est un vagin, quoi.
Oui, bah, oui, oui.
Enfin, je
comme
essayer.
Dans Rebel Moon, tu veux dire.
Ah oui, voilà, exactement. Snyder, Garland, même combat. Ils sont anglais, tous les deux. Tu veux que je te dise.
Mais voilà, pour le rebondissement supplémentaire de mon côté.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, elle n'a pas une intention belliqueuse, en fait. Là. Je pense que c'est... En fait, elle propose une solution pour guérir la planète, quoi, en fait.
Oui, non, mais...
C'est-à-dire qu'elle donne la grenade, Enfin, elle copie Lena, du coup. Et d'ailleurs, la copie, je trouve que quand elle n'est pas parfaite, la copie, là, quand on voit qu'il y a encore des trucs un peu uncanny,
ouais.
Tu sais, elle n'a pas totalement son nez. Ou,
c'est gênant.
Là, c'est vraiment bien fait.
Ouais, c'est bien fait.
Mais c'est vraiment extrêmement bien fait.
Clairement.
Et le truc, c'est qu'effectivement, elle lui propose du coup de faire comme son mari, parce qu'on voit son mari qui est filmé. Alors, ça, par contre, le truc des caméras, ça, c'est pas subtil, mais bon, bref, je pense que c'est pareil, ça a été compliqué pour essayer de montrer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, ils ont laissé ce trope-là pour aider.
Pour éviter le flash.
Mais effectivement, en fait, elle prend le double, elle prend son apparence, et elle lui dit, tue-toi, quoi, comme ça je te remplace et qu'on trouve une solution pour sauver la planète, quoi. Et elle refuse, mais finalement, son mari est quand même contaminé, entre guillemets, donc, enfin, est quand même une nouvelle espèce. Donc finalement, on revient sur nos pattes sur Adam et Ève, quoi.
Oui, mais en plus, ce qu'il faut comprendre en plus, c'est qu'elle, c'est une femme infidèle, donc bon, elle mérite de mourir. Hein.
Oui, oui, voilà, déjà, c'est elle la méchante du film, entre guillemets, quoi. Mais c'est pour ça que je comprenais pas. Bah, tu vois, là, tu m'as fait, entre guillemets, reconnecter des liens parce
avec
que ce
Bible.
Truc de l'infidélité. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai qu'on dans l'intro, on comprend qu'elle est en entretien. Parce que en fait, c'est vrai que Natalie Portman, ça fait un an ou deux ans, je crois, qu'elle a pas eu de nouvelles de son mari.
Un an, ouais.
Un an, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, elle s'est tapée son collègue qui est prof aussi en biologie ou un truc comme ça, enfin qui est prof dans l'école où elle travaille. Et ça, on le voit en flashback parce que c'est entrecoupé de flashbacks, effectivement, le film aussi, entre les chapitres. Et effectivement, ce truc-là, je trouvais ça un peu gratos. Mais effectivement, maintenant que tu reconnectes les liens comme ça, oui, effectivement, bon, c'est moins gratos que ça n'a l'air. Mais oui, effectivement. Mais voilà, enfin ça reste quand même. C'est un film que j'ai envie de détester pour le coup maintenant, mais que en fait finalement.
Non, il y a quand même, franchement, ouais, c'est quand même des trucs. Je comprends. Encore une fois, je comprends qu'on puisse le prendre en grippe.
Grave.
Parce qu'encore une fois, j'avais envie de l'adorer et c'est pas le cas. Mais et qu'il y a plein de choses. Voilà, j'ai énormément de choses à lui reprocher, mais en fait. Il apporte tellement de trucs quand même un peu sympas que voilà, ça remonte quand même beaucoup mon appréciation.
Bon, on va passer à cette question compliquée. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des références parce que c'est un peu toujours réducteur. On a dit 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est toujours un truc réducteur de dire, voilà, ouais, en fait, c'est Lovecraft, c'est Color Out of Space et Stalker de Tarkovsky. Mais en vrai, il arrive quand même, en partant même de ces références-là, qui sont un peu casse-gueule, il arrive à en faire quand même quelque chose qui a sa propre identité.
C'est pas fort.
Et ça, c'est quand même assez fort aussi. Parce que c'est quand même, c'est très codifié, ce genre de truc, tu sais, tu te dis, bah voilà, tout le monde après a pêché là-dessus, mais... En fait, finalement, il arrive à faire quelque chose derrière. Donc, c'est quand même un point fort du film aussi. Quoi. Allez, on va poser cette question. Ce film mérite-t-il la shitlist ? Je vais laisser la voix, la première voix, à Vesper.
Non, en vrai, non. Enfin, non. J'aurais pu me poser la question, mais non, je trouverais ça quand même un peu cruel. Mais je comprendrais que énormément de
bah oui.
gens aient envie de le faire. Voilà. Je leur en voudrais pas.
Parce que ça a été le cas. Je pense que tu poses la question. Là, tu sais, vous savez que je pose la question sur Instagram.
Ouais.
Je pose la question sur Instagram et sur Spotify, généralement, pour dire est-ce que le film mérite la shitlist. Moi, je suis sûr et certain que je vais avoir un 50-50.
Bah, ouais, chances, je pense hein. que tu auras même plus de oui.
Je pense ouais, que tu auras plus ouais.
de oui. Mais c'est ce que je t'ai dit. Avant de le revoir, je t'aurais dit oui aussi. Donc.
Donc bon. Ouais, clairement.
Bon, ouais, c'est, bon. C'est, ça change beaucoup.
C'est un non pour la shitlist. Karim.
Bah ça sera non, hein, ça va pas dans la shitlist parce que à décortiquer tu vas dire beaucoup de mal, mais à consommer en fait c'est vraiment pas si mal, tu vois. Donc bon, voilà, tu vois, ça mérite pas, c'est pas un sauvetage non plus ouf, hein, c'est pas une réhabilitation d'Annihilation, mais ça a jamais été si pourri que ça.
Ce soir on change tout.
Ouf.
On bouleverse les codes.
Mais ouf. Non, ouais, non, ça mérite pas shitlist pour l'expérience que c'est, non. Et puis, c'est pas non plus maladroit, c'est peut-être un peu opportuniste, mais en vrai, ça reste du cinéma, donc why not, tu vois. Et puis, non, vraiment, à consommer, c'était pas si mal. Et puis, je l'ai dit, hein, moi, ça me titille là où il faut quand même. Hein, donc, ça...
Non, bon, ok, bon, bah, écoutez, moi, de toute façon, j'étais parti pour un oui quand, j'avais planifié
pareil.
Le film. J'étais parti pour dire, oh, allez, vas-y, on va reprendre l'autre con, là. Et finalement, non. Finalement, non. Peut-être que je reverrai Men, et c'est pareil. Hein, peut-être que je dirais... En fait, finalement, j'ai réfléchi et ça y est,
j'ai compris.
Dans le bon sens. Peut-être que je ferai ça, hein, ce prochain film de Garland. Ou peut-être qu'on aura un trou, on fera Men, un de ces quatre. Mais en tout cas, ouais, non, c'est non pour la shitlist, effectivement. C'est pas non plus... Oui, oui, Marie-Clémentine note Garland titille là où il faut. Mais en te rire.
Tout à fait.
Oui, ça, oui. Non, effectivement, le film ne mérite pas la shitlist. Il n'est pas parfait. Effectivement, on peut être aussi dans le blocage en disant que c'est un film de gros prétentieux, tout ça. Mais... Et en tout cas, ce soir, il n'est pas dans la shitlist. Merci Vesper, merci Karim. N'oubliez
merci
pas.
À tous.
Alors là, je pense que pour ceux qui vont écouter l'émission, c'est trop tard.
Ouais.
Mais pour ceux qui nous voient en live, nous sommes au Club de l'Étoile vendredi à partir de 19h30, il me semble, pour l'apéro.
Oui.
Non.
Si je dis pas de bêtises, c'est ça, pour l'apéro. Puis diffusion du grand film qui s'appelle Les Ailes de l'Enfer, Con Air.
Bien sûr.
De Simon West avec le Nicolas et John Malkovich. Voilà, ça va être un pur
en
délire.
En VF et en 35 mm.
Oh, ça c'est ouf.
Voilà, pour les vrais cinéphiles. Les vrais cinéphiles. Et on enregistrera un shitlist en live. Donc soyez là, soyez présents.
En live sur
donc,
place. Et pas sur Twitch.
Voilà, sur place. Voilà, pas sur Twitch, mais sur place. Voilà,
venez,
vous verrez. Alors peut-être qu'on en ressortira peut-être un épisode du coup de ce live. On ne sait pas encore. On verra après les détails techniques. Mais voilà, soyez. Si vous voulez vraiment rater aucun moment. Et puis, attendez, parce que c'est un truc quand même qui est assez exceptionnel. Parce que c'est la première fois, je crois, où on est tous ensemble. Genre, c'est la première fois on se croit, on est tous dans la même pièce.
Ouais.
Alors en vrai, ouais. Vesper et moi, on s'est jamais vu physique.
Voilà.
Ouais
je...
Non.
Bah oui.
Ah.
Mais non. Non, non, vous êtes jamais vu. Hein.
Mais je pensais qu'on s'était déjà vu au moins une fois.
Même pas.
Ah ouais, y a
pas besoin en vrai, tu vois. Je veux dire, enfin, quand je dis pas besoin, très content, tu vois.
Ah
la connexion, voilà, elle est là. Tu
pas besoin de te voir.
N'essayez pas de me cliquer, les gars. Mais non, 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 ah non, tu peux dire ça, j'étais tellement content, ça faisait un mois et demi. Non. Non, mais en vrai, ouais, tu vois, ça avait fait actuellement.
Ouais, trop bien. Enfin,
voilà, il y aura de l'émotion.
Meet-up à nous.
Voilà,
c'est ouf.
Le meet-up shitlist
voilà.
au Club de l'Étoile.
Venez nombreux pour voir ça, il va y avoir.
Merde en vrai. Voilà.
Vous voyez ce qu'il y a dans Annihilation, cette opaline, il va se passer ça, on va se rencontrer avec Vesper et on va fissurer l'espace-temps du Club de l'Étoile. On va créer l'étoile, nous serons l'étoile.
Dédoublement.
On va devenir des hommes buis.
Ah, oula. Franck il dit, ça se trouve, il y en a un de vous qui fait 1m60 et vous le savez pas.
Bah, c'est moi.
Ah.
Un peu plus, mais je fais 1m69.
Ouais, ça va, le mec il dit je fais 1m60. Ouais, ça va, 69.
Non, et puis je mets un non plus. Je porte le chignon haut, je triche, t'inquiète.
Ah,
donc 1m74 avec les cheveux.
Quoi ? Le reste, il fait 1m74 ?
Avec ses cheveux.
Ah,
il met ses cheveux en haut. Bah oui. Ah,
pour le coup, je fais 1m74, donc tu vois, il y a moyen d'être jumeau.
Ouais.
En fait, quand tu parleras, t'auras son chignon en face de toi.
J'ai madame a fait 1m73, donc tu vois, c'est le même combat.
C'est bon.
J'ai l'habitude de me faire toiser, c'est pas un souci, tu vois, je le prends jamais mal. Je veux dire,
ça va, pour 4 cm, tu te fais pas toiser, ça devrait aller.
Faites un truc que vous ne faites jamais. Soutenez-nous sur Patreon. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Alors, 3 forfaits, c'est très simple. Le forfait à 3 euros, le Checklist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance. Le Checklist Plus, pardon. Qui permet d'avoir l'épisode en avance plus les contenus supplémentaires exclusifs. Et le forfait à 10 euros, le Hall of Fame qui est tout ça. Plus des stickers et le remerciement éternel. Et on va remercier nos donateurs encore une fois. Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Grief Keeper. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Oui, bah alors pour ceux qui ne sont pas au live, on a quand même un numéro la semaine prochaine. On va parler de Elvis parce que on est en plein boom. Enfin, on est en plein boom, je dirais encore des biopics musicales parce qu'on a eu Bob Marley le mois dernier. Super, merci les gars. Et on va voir Amy Winehouse. On va voir Amy Winehouse d'ici 10 jours à peu près, je crois. Donc ça va être incroyable, ça va être le feu. Donc Elvis de notre ami, je ne sais plus son nom. Merde. Baz Luhrmann. Ouais, voilà, j'avais complètement zappé. Excusez-moi, j'ai tellement de choses dans la tête que Baz Luhrmann n'est pas dans ma tête.
Ah oui, c'est Alex Garland qui est dans ta tête.
Maintenant c'est Garland. Maintenant il m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà.
T'as marqué.
Là, il a pris ma tête. Il m'a marqué.
Et sinon, voilà, n'hésitez pas aussi. Venez vendredi.
Grave. Bah,
venez vendredi. Parce que ce qui est bien, c'est que si ça se passe bien, on en fait d'autres. Parce que c'est ça l'idée. C'est on aime les ailes de l'enfer, alors, mais si on...
Le projet, voilà.
C'est ça l'idée, c'est que qu'on fasse un vrai ciné-club et qu'on organise d'autres séances. Donc, faut frapper fort.
Donc, c'est pour ça. Soutenez le podcast indépendant. Venez à cette séance. Venez à cette séance. Voilà. Bah écoutez, retrouvez-nous après sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Et puis, bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao, ciao.
Salut.